peux commencer. Donc ma présentation s'appelle Le Vampire et la Science, les monstres à l'intérieur de nous. Elle fait plus ou moins suite à une présentation que j'avais déjà fait il y a 4 ans, lors du jour des zombies en fait, la veille du zombie walk, qui parlait à peu près de la même chose, c'est-à-dire les rapports avec la science, mais pas avec les vampires, mais entendu avec les zombies. Je m'appelle Julien Béra, je suis interne en médecine, spécialisé en santé publique et médecine sociale, et plus particulièrement intéressé en toxicologie, épidémiologie et santé environnementale. Donc, le but de mon petit exposé va être de vous faire comprendre comment on est arrivé, déjà en première partie, comment on est arrivé de ça à ça. Ça paraît pas forcément évident en premier abord. Donc, ça rame un peu. Donc, un peu d'histoire déjà pour commencer, même si je pense que pour certaines choses, vous le saurez déjà. Ça commence à l'Antiquité romaine. Là, c'est un texte d'Ovide. Tout le monde a déjà étudié Ovide. Hein. Bien entendu. Qui parle d'oiseaux voraces avec un bec aiguisé qui sortaient la nuit pour attaquer les nouveau-nés, majoritairement, se nourrir de leur sang et dévorer leur chair. Ces oiseaux voraces, qui étaient monstrueux, s'appelaient les striges. On trouve des traces de ces striges aussi dans la Grèce antique, donc bien plus bien intérieurement à Ovide, mais la première description réelle était celle d'Ovide, c'est qu'on trouve dans les textes. Ça peut faire penser à quelque chose, le mot strige. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un terme plus fréquent qu'on trouve dans le mythe du vampire. On en parlera après. Donc là, dans un homme de Paris, il y a plusieurs gargouilles, et il y en a une qui s'appelle le strige, qui ressemble certes à un oiseau, mais enfin, on a du mal à voir le bec, soi-disant, qui pourrait déchirer les chairs. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'en biologie, il existe la famille des strigidés, qui regroupe une bonne partie des chouettes et des hiboux. Et effectivement, là on retrouve les ailes, bien entendu, mais on trouve quand même le bec assez aiguisé qui pourrait attaquer. Bon, bien entendu, les hiboux boivent rarement du sang, voire par accident. Mais en tout cas, ils sont servis de la racine latine strige pour parler de la famille. Et donc, ça peut faire penser à un mot, et normalement, si ça marche, Sprigoi. Ouais, c'est la série The Strain, hein, pour ceux qui ont reconnu. Donc le Sprigoi, donc on part de l'Antiquité pour arriver. Bah, la première réelle description retrouvée dans la littérature des Sprigoi, c'est au XVIIe siècle. Donc avec un Croate qui est revenu entre les morts, qui était tueur et violeur. Faut revenir ça, parce qu'après on en reparlera. Et donc le corps ne s'était jamais décomposé. C'est pour ça qu'on a parlé de mort-vivant. C'est parce que son corps ne s'était jamais décomposé. En 2004, on a aussi retrouvé dans la presse, là où vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez l'article de différents journaux en ligne, d'un cas de Sprigoi en Europe de l'Est. Donc c'était la nièce d'un homme de 76 ans, qui était malade, bon, dans un petit village. Elle a dit que c'était à cause de son oncle, qui venait la visiter la nuit, et donc qui aurait transmis une maladie. Ce qu'ont fait les villageois, bien entendu, ce que tout le monde aurait fait, ils sont allés voir la tombe de l'oncle, ils l'ont déterré, ils ont éclaté sa cage thoracique pour récupérer le cœur. Bon, le reste du cadavre, ils ont dispersé de l'ail, parce qu'on sait jamais, hein, toujours dispersé de l'ail. Et donc ils ont brûlé le cœur, ils ont fait un cocktail, ils l'ont donné à boire à la jeune fille malade en question. Et bien entendu, elle a guéri. Preuve que c'est un remède qui marche pour tout. Et voilà. C'était en 2004, hein. C'était pas il y a 5 siècles. Hein. Comme quoi, dans certains endroits, on y croit encore. Il n'y a pas qu'en Europe de l'Est. Alors certes, en Europe de l'Est, autour de la Roumanie, il y avait des cas de monstres sanguinaires qui pouvaient ressembler aux vampires. Au XIe siècle, on parle de Oupir en Russie. Oupir qui deviendra ensuite vampire, bien entendu. En référence à un prince cruel et meurtrier. Là aussi, le prince cruel et meurtrier, dans le milieu du vampire, on en trouve quand même quelques-uns. On parle aussi de corps réanimés partout en Europe, de morts vivants, etc. Il y a pas mal de légendes à ce propos. Et du coup, pour éviter que les gens reviennent entre les morts, il fallait faire quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser tout le monde impunément aller entre les morts. Pour bouffer les honnêtes villageois de la nuit tombée. Donc du coup, soit on brûlait les cadavres, soit on les décapitait, soit on les empalait, hein, c'est très sympa. On voit par exemple, c'est sur un site, un ossuaire à Venise, ils ont trouvé un crâne avec une brique entre les dents, pour éviter bien entendu que si le mort se réveille, il morde tout le monde. Et voilà. C'était assez fréquent à l'époque, on dirait pas, mais... Alors bien entendu, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient revenir entre les morts, c'était assez fréquent. Hein, donc, soit si on était un sorcier ou une sorcière ou un loup-garou, ça arrivait à l'époque, on sait jamais. Soit si on a été excommunié, donc là on voit quand même la présence déjà de la religion catholique. Être alcoolique, là aussi je pense qu'il y a quand même pas mal d'alcooliques à l'époque, donc si on est tous entre les morts, c'était un peu compliqué. Surtout dans certaines régions, mais j'irai pas plus loin. Avoir sa dépouille désacralisée par le contact avec un animal, par exemple à l'époque un chat, c'est toujours les chats qui font ça, saute sur un cadavre en enterrement, parce que là, bien entendu, ça risquait de créer un mort vivant. Ça a l'air con comme ça, mais ça se retrouve pas mal en Asie. En Chine, ça se retrouve par exemple. Hein. Donc c'est totalement n'importe quoi. être né le jour de Noël, parce que ça aussi, il n'y a que Jésus qui naît le jour de Noël. Donc si on est le jour de Noël, c'est qu'on se prend pour lui, donc forcément, on est quelqu'un de malsain. Et puis, le plus marrant, être un bébé né avec une coiffe céphalique, c'est-à-dire une sorte de dépôt placentaire qui reste au niveau du crâne, avec des dents proéminentes ou avec des sourcils contigus. C'est-à-dire qu'on connaît tous quelqu'un qui a des sourcils contigus, donc logiquement, lui, il va revenir après les morts. Donc ça vient, faites gaffe à vous. Et bien entendu, si le cadavre ne pourrissait pas dans la tombe, c'est qu'il y avait un problème. Donc si on trouvait, quand on déterrait un cadavre qui avait les joues rouges, la peau tendue, des vaisseaux sanguins visibles, les cheveux et ongles plus longs que lors de l'enterrement et du sang autour de la bouche, c'est que la nuit devait faire des trucs pas sympas. Donc là, c'était sûrement un mort vivant, il fallait sûrement se débarrasser de sa dépouille le plus vite possible. Bon, là je parlais des morts vivants, mais on n'a encore pas du tout, pas tous les éléments qui permettent de faire le lien avec le vampire. Quand les conquistadors ont fait tous les trucs très sympas qu'ils ont fait en Amérique du Sud, ils ont aussi aperçu certains animaux qui n'existaient pas en Europe. Dont cette magnifique petite bête qui est la chauve-souris vampire. Et quand ils sont revenus en Europe, ils ont dit on a vu une bête incroyable qui s'appelle la chauve-souris vampire. C'est très bizarre ce qu'elle fait, elle boit du sang, c'est incroyable. Et j'ai trouvé un tout petit documentaire National Geographic pour en parler, avec une vidéo très explicite. Donc ceux qui sont un peu sensibles, peut-être pour la regarder. Bon, c'est pas non plus terrible, mais bon. Logiquement, ça devrait pas trop ramener.
Les fruits et les insectes, très peu pour elles. La seule chose que veulent les chauves-souris vampires, c'est du sang. Beaucoup de sang. La nuit tombe sur ce village. Dans une grotte non loin de là, des centaines de créatures sanguinivores affamées se réveillent. Leur priorité ? Trouver un repas saignant. L'une d'elles repère une cible alléchante. Elle s'approche sans faire de bruit. Grâce au capteur thermique présent dans son nez, elle sait qu'elle vient de trouver une source d'hémoglobine. Un humain. Ses incisives sont si tranchantes que l'homme ne sent rien. La chauve-souris dispose d'outils ingénieux. Grâce à des anticoagulants présents dans sa salive, la blessure saigne abondamment et les poils sur son menton lui permettent de sentir le moindre mouvement de sa victime et l'avertissent en cas de réveil. Mais pour l'heure, elle boit jusqu'à plus soif.
Elle est mignonne, hein?
Et derrière, il y a un bonnet.
Ah bah oui, tant qu'à faire, ils en profitent. Voilà, bon, pour quand même être rassurant, elle se trouve qu'en Amérique du Sud. Hein. On peut dire, vous risquez pas d'en croiser en Auvergne. Donc ça, c'était avant le siècle des Lumières, avant le 18e. Bien entendu, au 18e, ils ont quand même commencé à se poser des questions sur les différents mythes et les différents monstres qui peuplaient les campagnes. Et donc le pape Benoît XIV, le pape, hein, je précise, parce que peut-être que les papes actuels sont peut-être un peu moins... dans une procédure scientifique, on devrait dire, en tout cas, il pensait lui que les revenants n'étaient que le fruit d'hallucinations. C'était une maladie mentale, un problème cérébral, un manque de sommeil, etc. Et il ne croyait pas du tout. Hein. Un autre religieux qui a beaucoup publié là-dessus, il a publié cette petite dissertation sur l'apparition des esprits, des vampires, des revenants, etc. Donc Calmet, donc 18e siècle aussi, déjà il posait le postulat d'enterrer vivants, parce qu'il s'est dit peut-être que les morts vivants, c'est juste des gens qu'on a enterrés trop vite. Hein. Et par contre, ils se disaient, bon, bah, c'est un peu compliqué de parler des vampires et dire qu'ils n'existent pas, parce que d'un côté, les morts vivants, ok, mais bon, je crois quand même à un mec qui a ressuscité, donc Jésus, je précise, n'importe qui. Donc voilà, donc ça pose un peu problème, c'est-à-dire que certains peuvent revenir avec d'autres noms. Et puis pareil, ceux dont les corps ne pourrissaient pas, c'était des saints. À l'époque, on disait, telle personne sera une sainte si son corps ne pourrit pas. Sauf que là, pareil, les corps qui ne pourrissent pas, c'est aussi des vampires. Donc du coup, dans tout son petit livre, il disait, ben, en gros, on peut pas trop trancher, mais ça existe pas forcément, mais je saurais pas comment le dire sans critiquer ma propre religion. Et puis Voltaire, c'était pas d'année pour la déconne, comparait l'épidémie vampirique en Europe de l'Est carrément à une crise d'hystérie sociale. Pour lui, c'était n'importe quoi. Et il a défini, là aussi c'est intéressant, le vampirisme social, qui est en fait l'usage de la superstition et donc de la peur par les classes dominantes pour détourner le peuple de ses véritables problèmes. Et donc asseoir un peu plus son pouvoir, bien entendu. Le siècle des romantiques, donc plutôt le 19e siècle. Voilà, c'est là où le vampire vient réellement. Enfin, en tout cas, celui qu'on connaît, c'est au 19e siècle. Il y a aussi une grosse transformation. On n'est plus dans des monstres en Europe de l'Est, dans les petits villages, les petites campagnes, etc., qui font peur. Là, bah, comme vous le savez, ils sont plutôt des nobles, assez jeunes, la romance, l'amour, etc. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de bouquins. On voit Dracula quand même, le roman arrive assez tard, en 1897. On parlait de vampires assez. Enfin, pas mal avant, en 1648 le premier. Le horla, bien entendu, en 1886. Et aujourd'hui, Dracula, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, qui est inspiré de Vlad Vampaler, qui a vécu au XVe siècle, qui n'était pas un vampire, comme on le dit, mais qui était très cruel, et du coup, ça avait servi pour dire, tiens, quelqu'un d'aussi cruel, c'est forcément un monstre. Le cinéma, parce que si on est là, c'est aussi à cause du cinéma, enfin en partie grâce au cinéma. Hein. Le premier film de vampire, je dirais, connu, et qui a posé les bases du genre, c'est Nosferatu en 1922. Petite parenthèse, 1922 Allemagne, Nosferatu c'est quand même quelqu'un, alors certes c'est un homme, mais qui débarque d'Europe de l'Est, qui amène avec lui la peste et la misère, et qui a les doigts crochus et les dents longues. Je dis ça, c'est dans une période qui était relativement antisémite, c'est quand même un peu étrange comme figure et comme représentation. Je sais pas si ça a été assumé réellement ou pas, mais en tout cas c'est quand même un peu étrange. Puis le premier vrai Dracula en 1931, il est Bela Lugosi. Et puis ensuite, bah, c'est un peu la folie, hein. Donc Christopher Lee, film de la mort, Black Dracula, le remake de Nosferatu, Dracula de Coppola, Dracula mort et Rodlet, Underworld, Buffy, Blade, Entretien avec un vampire, True Blood, Twilight, on l'a oublié. Et puis la série The Swain, et puis il y en a sûrement eu d'autres qui sont sortis entre temps depuis The Swain, bien entendu. Voilà, là c'était pour la fin de la petite partie historique. Si vous avez des questions, vous me poserez peut-être après, ce sera plus simple. Là, on rentre dans la partie médicale. Donc, je me suis donc posé les questions des différentes maladies qui pouvaient être à l'origine du mythe du vampire. Et je ne suis pas le seul, parce qu'il y a pas mal d'articles dessus scientifiques qui ont été publiés à travers les époques. Avant le 18e, il n'y avait quand même pas grand-chose. C'était majoritairement une figure mythologique, donc qui permettait d'expliquer certains phénomènes qu'on ne comprenait pas. Les épidémies, on ne comprenait pas. Le coma, on ne comprenait pas. Les enterrés vivants, on ne comprenait pas. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est des morts vivants. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, donc, les épidémies vampiriques suivaient les chemins des épidémies de peste et de choléra. L'épidémie de peste la plus connue étant, bien entendu, l'épidémie de peste noire, au 14e, qui a commencé donc en Asie, qui est passée par la Crimée, qui est arrivée par bateau à Marseille, et ensuite on voit qu'ils diffusaient à peu près toute l'Europe, qui a fait un nombre incalculable de victimes, bien entendu. Voilà. Donc ils ne savaient pas d'où ça venait, ils ne savaient pas pourquoi les gens avaient la peste. La peste qui a différentes manifestations. Entre autres, une pneumonie assez sévère, des bubons qui apparaissent sur la peau, qui se fissulent, enfin, on a plein de trucs comme ça. Donc, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Alors, certains se disaient, c'est les vampires, surtout en Europe de l'Est, parce que ça correspondait bien avec leur culture à eux. Notre culture à nous n'était pas exactement la même, donc on s'est dit, mais bien sûr, c'est les Juifs qui contaminent les puits. Donc, forcément, on va massacrer les Juifs en masse, hein, parce que forcément, il fallait bien réagir. On s'est rendu compte après que ça marchait pas trop. Mais c'était la réaction qu'il y a eu à l'époque, hein, c'est pas une connerie, hein, ils ont vraiment dit, c'est les Juifs qui contaminent les puits. Donc ça fait des pogroms à travers toute l'Europe. Ils ont quand même dit qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus que ça, parce qu'accuser les Juifs, ça a bien 5 minutes, il y a peut-être autre chose derrière. Donc ils se sont dit les vampires n'existent pas. Ça c'est clair, ils n'existent pas. Pour autant, pas mal de gens y croient, et sur des territoires qui sont éloignés les uns des autres. Je parle d'Europe de l'Est, mais l'Europe de l'Est, c'est quand même grand. Et les territoires qui ne communiquaient pas du tout entre eux, ils n'avaient pas internet. Hein. Donc pour que vient au sud, au sud-ouest et au nord-ouest, ils croient dans des mythes de vampires. Même si les vampires n'étaient pas exactement les mêmes, c'était qu'il y a quand même quelque chose, il y avait quand même un truc qui pouvait expliquer ça. Ils se sont aussi rendus compte que certains monstres mythiques, de l'Antiquité majoritairement, existaient. C'était des personnes malades. Le cyclope, par exemple. Le cyclope, c'est une anomalie du développement fœtal qui entraîne ce qu'on appelle l'holoprosencéphalie. Là, vous voyez, il y a un œil unique au milieu du front. Certains ont carrément une corne qui pousse. Parfois, certains n'ont pas de boîte crânienne, il y a le cerveau qui sort, en fait. Autant dire que c'est pas viable, hein. Je veux dire, il meurt in utero, enfin l'accouchement, voilà, il y a pas. Au mieux, il y a peut-être quelques heures de vie, mais enfin, c'est pas du tout viable. Donc voilà, ça correspond quand même bien avec la figure du cyclope. Hein. C'est pareil pour les sirènes, j'ai pas mis de photos, mais pareil, il peut aussi avoir des naissances avec des enfants qui naissent avec les deux jambes fusionnées, pas d'organes génitaux externes, pas d'urètre, pas d'anus. Là aussi, l'espérance de vie est de quelques jours en maximum. Alors, vous trouvez pas mal de monstres comme ça de la mythologie gréco-latine, qui sont des malformations. Et ce jeune homme qui s'appelle Petrus Gonsaldus en 1580, je sais pas si vous voyez, mais il atteint le syndrome d'Ambras, qui est une hypertrichose. Pour faire simple, il a des poils de partout. Il a vraiment des poils type cheveux. On peut se dire, tiens, c'est un garou. Voilà. Il avait juste ça, hein. Il tuait pas les gens. Il avait été adopté par Henri II en France. Donc c'était devenu un noble, etc. Mais voilà, ça peut tout à fait expliquer le mythe du loup-garou. Quand on le voit, ça fait assez penser à ça. Hein. Donc voilà, il y a des explications rationnelles. La première qu'on trouve dans la littérature, c'est la rage. D'ailleurs, la rage qui a été exploitée dans d'autres films après, plus des films de zombies, mais on dit, ah tiens, il a chopé la rage, on en a toujours plus tard. On les accuse ça d'être la rage. Donc ça tient un peu la route, parce qu'effectivement, c'est un virus, donc il y a des épidémies de rage, donc ça peut expliquer certains clusters épidémiques qu'il y a pu avoir en Europe de l'Est. Il y a une inversion du cycle téméral, un mot compliqué pour dire qu'en fait, ils vivent la nuit, ils se reposent le jour, comme les vampires. Ça peut entraîner des hallucinations aussi, donc pareil, ils peuvent dire, oh là là, je suis un vampire, je suis un monstre, etc. L'hydrophobie. Alors ça se trouve moins dans les films de vampires récents, mais dans le mythe du vampire de base, les vampires ont peur de l'eau, je dirais les courants d'eau par exemple. Et puis surtout, la surface de l'eau, ça peut aussi faire, on sent bien un miroir. Donc du coup, ça peut aussi tenir. Les gens sont agressifs. C'est transmis par morsure, majoritairement de chiens ou de loups, de chauves-souris possiblement. Parfois d'hommes, mais il n'y a pas vraiment de cas de rage transmis par morsure d'hommes. Hein, c'est quand même assez compliqué, on se mord rarement entre nous. Et c'était très fréquent jusqu'au 20e siècle. Il y a vraiment des épidémies de rage partout en Europe, hein. Même partout sur le globe, mais en Europe, pas particulièrement. Pour autant, ça n'explique pas tout le comportement du vampire, ça n'explique pas l'ail, ça n'explique pas la croix, ça n'explique pas plein de choses comme ça. C'est une encéphalopathie, donc une maladie cérébrale qui est très handicapante. Donc on ne sort pas comme ça la nuit pour s'amuser à mordre des gens. Et le décès est vraiment, le décès est quasiment inéluctable et il est rapide, il suffit quelques jours pour que la personne décède. Donc ça n'explique pas, c'est pas du tout l'immortalité des vampires. Hein. Quelques photos, donc il y a un patient atteint de rage, la photo date un peu, hein. C'est vrai qu'elle est en noir et blanc, et puis c'est aussi, on ne s'amuse plus à les attacher comme ça, bah, parfois si, mais pas forcément ceux qui ont la rage. voilà, donc on voit quand même que c'est handicapant, il y a des convulsions, des choses comme ça, c'est pas un vampire qui sort avec sa cape la nuit pour mordre les gens. Un chien atteint de la rage, là aussi on voit, voilà, il y a vraiment le côté, on se dit bien qu'il est enragé, des fois c'est moins évident, mais nous on se dit bien qu'il est enragé. Puis un petit schéma, alors c'est avec les zombies, pas avec les vampires, excusez-moi. Il paraît de voir, ok, tous les deux sont agressifs, mais quand même, il y a des convulsions, là, il y a une hypersalivation, etc. Bon, ça correspondrait de toute façon pas avec le vampire, globalement. Mais c'est quand même une explication qui s'en rapproche. Mon explication préférée, je l'ai répété plein de fois, mais vraiment, c'est la porphyrie érythropoïétique congénitale, qui est un ensemble de maladies génétiques qui se transmettent soit quand les deux parents ont un gène, ils sont pas malades, mais ont un gène, et du coup, l'enfant aura la maladie, soit si le parent est malade, il suffit d'un seul gène malade, et peut le transmettre. Il y a différentes formes, plus ou moins sévères, avec plus ou moins de symptômes là aussi. Pourquoi ça tient la route? Parce qu'il y a une photosensibilité cutanée, c'est-à-dire que la peau brûle au contact des clairement certaines des brûlures plus ou moins sévères. Quand j'ai fait la recherche, j'ai de très belles photos sur Google Images, je les ai pas toutes mises, j'en ai mis qu'une. Mais il y a des photos qui sont un peu dégueulasses. Donc du coup, ça explique qu'ils vivent la nuit. Il y a une érythrodoncie, un terme compliqué pour dire que les dents sont rouges, donc il peut faire penser que voilà, ils viennent de se nourrir de sang. En plus, il y a souvent une malformation des dents. Il y a une anémie hémolytique chronique, tout ça pour en dire que les globules rouges éclatent de manière chronique, qui est aggravée par la consommation d'ail. Et donc, pour traiter cette anémie, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On leur faisait boire du sang. Ce qui ne fonctionnait pas, hein. Les versions, enfin, ça sort à l'étif. Il suffisait de boire du sang pour guérir une anémie. Boire du sang, ça fait vomir enfin, très rapidement. C'était pas efficace, bon, ils testaient à l'époque. Hein. Ils faisaient comme ils pouvaient. Pourquoi ça tient pas la route? C'est parce que c'est quand même assez rare. Donc c'est moins de 10 personnes malades sur 100 000 habitants. Donc pour expliquer des figures comme ça, des mythes, enfin des épidémies, ça tient pas. Et puis pareil, c'est génétique en plus. Hein. C'est pas épidémique, ça se transmet pas comme ça par contact ou autre. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. L'érythrodoncie, avec les dents rouges, qui sont un peu mal formées, hein, vous voyez que c'est quand même pas dents typiques. Les brûlures cutanées, avec des brûlures de premier et deuxième degré, là on voit un cutane, c'est-à-dire une bulle au niveau de la peau. Voilà. À pas confondre quand même avec le xéroderma pigmentosum, les enfants lunes, comme on les appelle, où eux, il y a vraiment, enfin très majoritairement, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est quand même majoritairement uniquement des lésions cutanées. Ils sont parfois un peu plus sévères et vraiment, ils peuvent pas vivre sans protection. Là, la porphyrie, certaines formes ont très peu d'atteintes cutanées, donc ça va. Mais le xéroderma pigmentosum, c'est lui qui arrive. Et enfin, déjà, la dernière cause, là, j'y crois pas du tout, elle a été citée quelques fois, mais bon, je l'aimais vraiment parce qu'il y a des articles qui en parlent, mais la pélagre. Il y a une photosensibilité aussi, qui n'est pas du tout la même que dans la porphyrie. Un comportement agressif, une glossite érythématose, c'est-à-dire la langue qui gonfle et qui est très rouge. Donc là aussi, on peut penser que quelqu'un va se nourrir de sang. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein, mais bon. Et c'est une maladie carencée en B3 et tryptophan, donc dans pas mal d'endroits, c'était assez fréquent. Il n'y a simplement pas de quoi bouffer. Hein. Même s'il y a d'autres carences qui se manifestent, bien avant la pélagre. Pourquoi c'est un peu n'importe quoi? Parce que je veux dire, il n'y a que ça, et c'est quand même assez éloigné de la figure comique du vampire. Et donc une photo en Afrique d'une dame qui a la pélagre. On voit vraiment, ça respecte bien les zones qui sont exposées au soleil. Hein. le t-shirt n'est pas du tout exposé. Et ouais, ça fait une peau parcheminée un peu étrange. Enfin, ça correspond pas vraiment à ce qu'on pourrait se dire. Tiens, c'est la figure du vampire. Là, c'était les explications vraiment médico-cliniques, anatomiques. Il y a d'autres explications un peu plus sociales. Déjà, il n'y avait pas vraiment de refuge pour les vendeurs à l'époque. Donc, ils allaient là où ils pouvaient quand il faisait froid ou quand il pleuvait. Et parfois, ils s'abritaient dans les cimetières, dans les caveaux. Donc, les gens disaient, mon Dieu, des gens qui vivent dans les cimetières sont des morts vivants. La population de sépultures aussi, parce que les cimetières étaient quand même moins bien protégés qu'à l'heure actuelle. Donc les animaux venaient, pouvaient manger des cadavres, etc. Et on trouvait des cadavres déterrés le lendemain matin. On disait, c'est le cadavre qui a voulu s'échapper de sa tombe. Il y a les enterrés vivants. Alors ça paraît évident comme ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, on savait pas quand une personne était réellement morte. Quoi. C'est-à-dire quelqu'un était dans le coma ou qui était un peu, quand même pas mal malade, on pouvait l'enterrer en disant, elle est morte. Et puis soit alors, on n'enterrait pas profond, elle pouvait sortir. On disait, c'est un mort vivant, faut le tuer. Soit on les déterrait au bout d'un moment, puis on se rendait compte qu'ils avaient essayé de gratter au niveau du cercueil, et puis voilà, on disait c'est un mort vivant, on va quand même bien l'empaler, le brûler, mais bon, il est mort quand même. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez pas vérifier ça. C'est assez récent finalement qu'on puisse réellement trouver des moyens de vérifier à cause de la mort. Ça explique aussi les morts vivants, les zombies Haïti, hein, pour info. Pareil, c'est pareil, il n'y avait pas de moyen de savoir si c'était bien mort ou pas, donc on les enterrait, et puis après on voyait. Là aussi, les corps bien conservés s'expliquent, même encore à l'heure actuelle. Hein. Il y a certains terrains qui favorisent ce qu'on appelle la production d'adipocire, c'est-à-dire la saponification naturelle de la graisse des cadavres, qui entoure finalement les cadavres et qui agit comme conservateur naturel, ce qui fait qu'ils mettront beaucoup plus de temps avant de pourrir. Et puis aussi, on ne connaissait pas trop comment ça marchait la décomposition, tout simplement. Déjà qu'il fallait voler des cadavres dans les cimetières pour les disséquer, pour savoir où trouver le foie et où trouver le cœur. Donc la décomposition, c'était pas vraiment leur souci principal. Mais effectivement, l'abdomen distendu, le sang autour de la bouche, l'impression que les ongles et les cheveux ont poussé, c'est normal, c'est dû à la réfraction de la peau, enfin voilà. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel et qui existe chez presque tous les cadavres. Ça ne veut pas tout dire qu'ils ont vécu après leur mort. La psychiatrie s'est aussi intéressée aux vampires, d'une manière un peu différente. Alexis Pollard, donc qui était interne en médecine à Lyon, quelqu'un de bien forcément, en 1901, a soutenu une thèse qui s'appelait Vampirisme, nécrophilie, nécrosadisme, nécrophagie, tout un programme. Voilà. J'appellerai pas la mienne comme ça, hein, ça va être un peu compliqué, mais je suis pas sûr qu'ils acceptent. Mais voilà, il a trouvé une thèse qui est disponible dans les BU de Lyon, en tout cas la BU de Lyon 1 elle est disponible. Si jamais ça vous intéresse de la lire, elle est un peu longue, mais là c'est intéressant. Et du coup, donc c'était pas du tout le vampire comme on connaît, il y a pas mal de criminels au début du 20e siècle qui ont été accusés de vampirisme, donc Antoine Léger, bon là c'était plutôt 19e. Peter Kurtern, le vampire Düsseldorf, qui ressemble pas tant que ça à un vampire, hein. Voilà, il suçait pas le sang des gens, et tout ça, c'était juste un violeur et un tueur en série, qui massacrait des enfants, mais on l'a appelé le vampire, parce que voilà, c'était un monstre, donc on l'appelait le vampire. Tous ces gens-là, enfin globalement, certains étaient peut-être un peu nécrophages, un peu cannibales, mais globalement, c'était quand même pas des vampires comme on entend à l'heure actuelle, c'était juste des tueurs en série. Bien. Voilà. En 1985, il y a carrément eu une classification psychiatrique des différents vampirismes. 1985, hein, je le redis, hein, c'était pas non plus. C'était déjà 31 ans, mais quand même. Voilà, c'est un psychiatre qui s'est dit je vais parler du vampirisme. Donc il parlait du vampirisme complet, qui comprend l'ingestion de sang, la nécrophilie, le nécrosadisme et l'envie de sang. Le nécrosadisme, c'était un terme que je connaissais pas avant. Pour définir, c'est des gens qui s'amusent avec les cadavres, qui les coupent, qui les brûlent, qui prennent la peau pour décorer chez eux. C'est Edgain. Si vous connaissez un peu les tueurs en série, c'est Edgain, quand il prend le nécrosadisme de base. Le vampirisme sans ingestion de sang, donc le nécrophile, vampirique, ok. Le vampirisme sans implication de la mort, donc il suce du sang et puis il s'en va. Et puis l'auto-vampirisme, qui est quand même pas mal plus fréquent, on en trouve encore dans les établissements psychiatriques parfois. Donc c'est une automutilation suivie de l'ingestion de son propre sang. Ça arrive, voilà, c'est pas forcément génial sur le long terme parce qu'à la fois ça crée une anémie, ça fait des lésions qui peuvent s'infecter aussi. Et puis, on lui dit, on digère rarement son sang, donc ça fait des vomissements, enfin, c'est un truc, voilà, vraiment, c'est assez terrible. Heureusement, c'est pas si fréquent que ça, mais ça se trouve encore. Ça reste rare, quand même, globalement, surtout associé aux différentes psychoses, aux troubles dissociatifs. Il y a une publication de 2006 en Afrique du Sud qui parle d'un jeune Africain qui s'appelle Tabo, qui s'est présenté aux urgences une fois en disant je suis un seigneur vampire, je suis un seigneur vampire. Ils l'ont interrogé, ils ont fait une enquête autour de lui. Bon, en fait, il était juste schizo. Hein. Il pensait qu'il était un seigneur vampire, mais il a tué personne, il a jamais vu le sang, etc. Donc ça aussi on en trouve, des gens qui se prennent pour Luke Skywalker ou des Dracula, il y en a pas mal aussi dans les hôpitaux psychiatriques. Et ils sont juste libres, vraiment. Voilà, maintenant pour aller un peu plus loin dans les différents liens entre la santé, la médecine et les vampires, il y a quelques pistes. Alors les dentistes s'intéressent aussi au mythe du vampire, parce que ça peut être source de bénéfices pour eux, avec les vampires écrivains grecs et le dental tuning, qui s'appelle dans les années 90 aux États-Unis. Et donc, c'est une demande de fabrication de prothèses dentaires, amovibles ou non, après c'est pas amovible, hein, en résine, bon, majoritairement en résine, par les prothèses dentaires, les chirurgiens dentistes ou des funksmiths qui sont les spécialistes, comme Fazer Sébastien, qui fabriquent ces magnifiques prothèses, qui sont pas données. Il y a des chiffres, des prix par palette, c'est plusieurs centaines, parfois milliers, ça dépend ce qu'on met dedans, d'euros. Et voilà, là, c'est une publication d'un chirurgien dentiste qui s'allie à un prothèse dentaire. Et qui discutaient en France, hein, c'est en France, hein, les intérêts, les avantages et inconvénients de différents types de prothèses, selon les matériaux, selon si elles sont simples ou doubles, etc. C'est quand même bien foutu, je crois. Il y a aussi des études sur le vampire, moins qu'avec les zombies, parce qu'on se dit moins que ça fait épidémie, alors que pour nous, le vampire, ça reste un être isolé, etc. Mais il y a eu quelques études. Schneider, c'était un prof canadien, si je ne me trompe pas, qui donnait des cours d'immunologie. Il y a des trucs, enfin, pour vraiment s'intéresser à l'immunologie, hein, c'est la réaction entre les anticorps, les différents antigènes, etc. Ça peut vite devenir un peu ennuyeux. Mais du coup, pour enseigner ça à ses élèves, il prenait pour exemple différents films et séries sur les vampires. Donc Blade, par exemple, il dit que Blade, c'est un exemple de thérapie génique pour bloquer les symptômes du vampirisme. Et donc il a mis un petit code pour ça, il disait ça, j'en ai parlé dans l'épidémiologie ou dans les soins imaginatifs, etc. Pareil avec Buffy contre les vampires. Avec Buffy contre les vampires, il estime qu'on va faire des stats. Faire des stades, des différents types de monstres, notamment dans Buffy, etc. Donc ça servait pour ses cours, il mettait des extraits vidéo de ça dans ses cours, il demandait aux étudiants d'y analyser, et après bah, il allait dans quelque chose de plus méthodologique, plus scientifique, plus réduire, mais voilà. Ça me semble être une bonne manière de faire, je pense que pour être un truc un peu chiant, ça pourrait être quand même pas mal parfois, surtout dans des domaines comme l'immunologie. Il y a aussi des études épidémiologiques et statistiques qui prennent le vampire comme modèle, pour faire des modèles statistiques, hein, simplement. Une de 1982, qui posait un peu la base du truc. Il disait qu'en gros, voilà, on est vraiment dans quelque chose où on a un prédateur à une proie, sauf que le prédateur transforme la proie en nouveau prédateur. Et donc du coup, rapidement, il n'y aurait plus de proie, ça serait un peu compliqué. Il y a un modèle en 2007 un peu plus détaillé par rapport à ça, qui disait que si les vampires faisaient un seul repas par mois, donc d'humains, et transformaient donc l'humain en vampire, ça semble être... ça se trouve pas toujours, mais ça se trouve quand même dans pas mal de livres et pas mal de films. Si on parle d'une si on parle un seul vampire au début, le premier mois, une population humaine d'environ 500 millions de personnes, bon, on est plus nombreux, mais il y a 100 millions de personnes, je ne sais pas exactement pourquoi, mais... en 30 mois, il n'y aurait plus que des vampires et plus aucun humain. Donc voilà, donc ça permet aussi de dire la croyance des vampires, c'est cool, mais alors soit ils bouffent pas et ils sont un peu anorexiques, soit je sais pas, il y a un problème quoi. Mais voilà, donc c'est assez rapide. Hein. On est déjà à la conclusion. La véritable origine des vampires, bah finalement, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que c'est aucune et tout à la fois. Comme je vous ai montré, il y a plein de maladies qui peuvent expliquer certains trucs, mais il n'y en a aucune qui expliquerait totalement. On disait, ouais, ok, ça c'est exactement là d'où ça vient. C'est un mélange donc, de plusieurs causes médicales et aussi sociales, les mendiants dans les tombes, enfin des choses comme ça. Ça a quand même été pas mal déformé par la tradition orale, parce qu'il y a quand même assez peu de publications là-dessus, à part de certains lettrés, majoritairement des moines, enfin des chrétiens, voilà. Puis par le temps, parce que forcément ce qui nous vient de l'Antiquité a été aussi un peu déformé. Hein. Il reste quand même un rôle important du monstre dans l'inconscient collectif, surtout à l'époque, à la fois pour expliquer ce qu'on ne comprend pas, parce que voilà, les épidémies, on ne savait pas comment ça marchait, on ne connaissait pas qu'il y avait une bactérie qui s'appelait Yersinia pestis, qui entraînait l'épidémie de peste noire par toute l'Europe. On disait, bah, c'est les vampires, hein, c'est beaucoup plus simple. Mettre en garde contre certains dangers, ça se retrouve aussi dans certains pays encore à l'heure actuelle, mais c'était, va pas dehors, il y a le vampire qui risque de te manger la nuit, donc reste à la maison. C'est pas la tête de regarder les gamins à la maison. Hein. Puis à une échelle un peu plus haute, asseoir son pouvoir aussi. J'ai entendu avec Vlad Lampaleur, tout le monde pensait que c'était un vampire, tout le monde pensait que c'était un monstre en tout cas. Donc on n'avait pas défié un mec qui est immortel et qui est un monstre. Déjà qu'il était assez cruel comme ça, si en plus on pouvait même pas le tuer, ça sert à rien de porter le coup. Quoi. Et c'est une figure qui a su survivre, évoluer et se développer, et c'est pour ça qu'on est là à l'heure actuelle. On parle beaucoup des vampires occidentaux, mais je pensais que vu que le sujet c'est le territoire du vampire, on peut aussi parler de certains autres vampires en tout cas. Donc déjà des vampires un peu différents, qui se retrouvent quand même en Occident. Bah, le zombie, parce que finalement le zombie a été inspiré du vampire. Hein. Georges Romero l'a avoué lui-même que finalement c'est beaucoup inspiré du mythe du vampire. On est assez loin du zombie haïtien qui est un mort-vivant, enfin qui n'est pas vraiment un mort-vivant, mais qui est quelqu'un qui est drogué par un sorcier, qui donne régulièrement des drogues pour servir comme esclave, etc. Voilà, le zombie actuel c'est une épidémie, ça se transmet par morsure. Bon, c'est quand même assez proche des vampires. Le Chupacabra, j'aime beaucoup parler de Chupacabra parce que certains pensent que c'est une légende qui existe en Amérique du Sud depuis des centaines d'années et tout. Pas du tout, si ça avait été inventé il n'y a pas longtemps, on a vu que c'est un creepypasta. Dans les années 90, on disait que c'est une légende urbaine. Mais voilà, donc c'est un. Bon, littéralement, c'est un suceur de chèvre, mais j'aime pas trop utiliser cette expression. Mais voilà, c'est un monstre qui en tout cas décimait les troupeaux, et voilà, on disait c'est Chupacabra, c'est Chupacabra. Bon, il y a eu différentes descriptions. Il y a une photo que j'aime beaucoup, qui est celle-ci, qui ressemble à moitié à un petit gris et à moitié à un reptilien. Il y a un très bon épisode d'X-Files dessus, mais voilà. Il parle encore un peu de Chupacabra en Amérique du Sud, mais effectivement, c'est vraiment une légende urbaine, hein, c'est quelque chose, c'est un peu comme Slenderman à l'heure actuelle, hein, quelque chose près. Hein. Et donc, ailleurs, en Orient, en Thaïlande, il y a la Krasoué, qui s'appelle Penangaen en malais, mais qui représente la même chose. C'est-à-dire une jeune femme, relativement normale dans la journée. Quand la nuit arrive, par contre, eh ben, la tête se détache du corps. Ce qui est assez marrant à noter, c'est que la tête se détache avec les différents organes internes. Et le corps va se réfugier dans la forêt. Parce que si on attaque le corps, on tue le monstre. Donc il doit se cacher, etc. Et donc la tête vole, et va dévorer les femmes enceintes, les femmes accouchantes ou les jeunes enfants. On voit là aussi, bon déjà les jeunes enfants, ok, mais surtout les femmes, c'est aussi quand même un moyen de dire sors pas dehors la nuit, reste à la maison, parce qu'il y a plein de galènes qui va être chaud. Alors certes, ça a l'air dégueulasse comme ça, et c'est un peu ridicule, mais vous avez vu le niveau de souci anatomique quand même ? Il y a quand même le cœur, l'estomac, l'intestin grêle, il y a les poumons. Enfin, c'est un mythe qui a quand même plusieurs centaines d'années. Donc ils savaient quand même l'anatomie qu'il y avait à l'intérieur du corps humain, c'est quand même pas rien. Nous, je pense pas qu'on s'imaginait comment étaient les vampires à l'intérieur. Hein. Je veux dire, on n'avait pas le droit de disséquer, donc il y a quand même, on y va, mais il y a quand même pas mal de boulot derrière. Et puis mon préféré, hein, alors je vais pas savoir prononcer parce que je suis très mauvais en chinois, mais le Jiangxie ou Gunxi en cantonais. Le vampire chinois de tradition taoïste, c'est le mort-vivant asiatique qui se rapproche vraiment le plus du vampire occidental. D'ailleurs, il y a quelques films de crossover entre les vampires type Dracula et des vampires chinois. Il a quelques particularités, donc il peut être contrôlé par un maître taoïste. Il suffit d'y mettre une petite inscription, c'est très bien vu dans les films, avec une formulation dessus sur le crâne, et on peut le contrôler. Il se déplace uniquement en faisant des petits bonds. C'est très marrant, d'ailleurs, on a vu à plein de scènes, un comique fou, ils ne peuvent pas passer des escaliers parce qu'ils font que des petits bonds, c'est incroyable. Et puis aussi, ben, y a pas mal de sorts, hein, c'est pas la croix, hein, mais c'est plus le sel, le riz, le sang de poulet, enfin voilà, il y a un petit côté en plus, il y a un petit côté vaudou, alors c'est pas tout le monde, mais voilà, pour les contrer. Donc là j'y mets un extrait. Et donc vu que j'aime beaucoup ça, pour finir la présentation, je vais vous montrer le trailer donc, du film qui a posé la base du vampire chinois, film donc hongkongais des années 80, Mr. Vampire. C'est un trailer qui a été retravaillé pour un festival, je crois, à Toronto, c'est pas le trailer original. Il rend le film quand même un peu plus sexy que ce qu'il est, parce que le film a quand même un peu mal vieilli. Mais voilà, c'est assez marrant, c'est de la kung-fu horror comedy, donc un genre un peu what the fuck. Puis voilà. J'espère que ça va marcher, parce que ça vaut le coup. Ouais, ça marche. In a time of magic and superstition, where the supernatural walk the night, legend tells of an evil that does not sleep. Of past generations, a small band of heroes will rise to confront their destiny. Si vous avez l'occasion de le voir, il vaut le coup quand même. Il est un peu mal vieilli, mais voilà. Bon, il y a toutes les scènes d'action qui sont en trailer, là, par contre. Je vous le dis, hein, parce que en une heure et demie, voilà. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, c'est tiré de votre film de Shadow, c'est un super film. Quelques références si vous en voulez, sinon je peux vous enfiler plus si ça vous intéresse. Donc voilà les articles dont je me suis servi pour en parler de mon truc.
N'hésitez pas à poser des questions ouais. À Julien, en fait, profitez qu'il soit là. C'est pas si souvent qu'on a l'occasion, même nous pour le salon, ça pourrait pas qu'on fasse intervenir quelqu'un en fait qui a un bazoum médical pour se pencher sur le sujet.
Oui.
Ça va tout au bras.
rapport avec le médical, est-ce qu'à, enfin, selon vous, hein, à quel moment c'est passé d'un monstre qui fait peur, etc., à celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est plutôt genre Twilight, beau, séduisant, et dont on a peur du tout.
Même Dracula était déjà séduisant. Hein.
Ouais, c'est ça.
Je veux dire, donc, c'est vraiment au 19e avec les romantiques où ils se sont dit, bon, bah voilà, on va faire un monstre plutôt séduisant. Et voilà, on s'est dit, ouais, c'était plutôt la noblesse, etc. Bah, après, c'était courant romantique de base, qui s'intéressait quand même plus à la noblesse. Ils ont essayé d'en rajouter un élément horrifique en utilisant le vampire. Ça, ça collait bien. Enfin, là, côté un peu grand lord, enfin, pas lord, mais grand noble d'Europe de l'Est qui vient, etc., mais qui apporte aussi la malédiction. Si on a bien Dracula, le film de Coppola est moins dans le roman, c'est un peu plus érotique, il y a, mais dans, en tout cas, dans le roman de base, il y a quand même quelque chose de vraiment de la romance, etc. Et donc, il y a côté séduisant. Mais il y a côté, ouais, c'est toujours un peu héros, c'est un atout. C'est à côté séduisant, mais horrifique. Il y a la peur, la révélation quand ils voient que c'est un vampire, etc. Mais ouais, c'est vraiment ce moment-là. C'est vraiment... Mais il fallait déjà qu'ils arrivent à déconstruire le vampire, ce qu'ils ont fait au 18e, en disant que ça n'existe pas, etc. Pour ensuite se dire, ok, c'est une figure mythique, donc on va l'utiliser. Avant, les articles qui étaient dessus, c'était vraiment, oulala, il y a des épidémies, il y a des vampires en Europe de l'Est, ça craint, etc. Donc c'est vraiment ce moment-là. Et d'ailleurs, maintenant, enfin, finalement, il n'y a plus que cette figure-là. Enfin, pas forcément, mais globalement, dans une bonne partie de la littérature et des films, on reste dans cette figure-là. On n'est plus vraiment dans la figure du monstre d'Europe de l'Est, etc. On utiliserait autre chose, on utiliserait des zombies, on utiliserait. Mais voilà. Même dans. Ouais, même The Strain, par exemple, ou dans Blade 2, qui utilise un vampire différent, où il y a voilà, une sorte de langue qui se prolète, etc. Ça fait penser un peu ce qu'on pourrait penser aux Striggers à l'époque, mais ils sont quand même. Voilà, ils sont quand même civilisés, enfin, il y a quand même quelque chose de pas du tout. Voilà, c'est quand même dans notre monde à nous, quoi. C'est dans notre monde à nous. D'autres questions ?
C'est toujours bizarre de voir que vampire rime souvent avec esthétique, beauté. C'est pas moi, le premier que j'avais vu, c'était avec Catherine Deneuve et Bowie.
Et Bowie, ouais.
Bon, il n'y avait pas l'histoire des dents, etc. Mais c'était. Et depuis ce temps-là, je veux dire, c'est toujours comme si le fait d'être vampire, on devenait beau, on devenait.
Il y a aussi le côté voilà, de la jeunesse éternelle, il y a toutes les choses qui se jouent là-dedans, voilà, l'absorption du sang, la comtesse Bathory, j'en avais pas parlé, mais qui soi-disant, je ne sais pas si c'est totalement vrai ou pas, mais prenait des bains avec le sang de jeunes filles vierges pour garder une beauté éternelle, une jeunesse éternelle, des trucs de genre là. Donc il y a aussi tout ça, etc., qui sont liés finalement ouais, au mythe de la beauté éternelle et de la vie éternelle. Donc on est en quelque chose comme ça. Après, il y a encore des films maintenant, je parlais de The Slain par exemple, les vampires de The Slain dégueulasse, hein. C'est vraiment plus des zombies, enfin ils sont à moitié pourris, ils ont des langues qui se projettent, enfin voilà, donc il y a aussi maintenant cette déconstruction un peu qui se fait, où on n'est plus dans le vampire type Christopher Lee ou Bela Lugosi, magnifique cap, et son accent étranger, et voilà, on commence à être dans quelque chose qui est un peu plus, on est en train de rendre le vampire nouveau comme un monstre, un peu plus que comme, enfin après il y a Twilight aussi, donc tout se trouve en fait, il y a tellement maintenant que c'est difficile de savoir résumer ce qu'est un vampire en 2016.
Dans Troubled, ils sont plutôt beaux.
Oui, là aussi, dans Troubled, ils sont plutôt beaux. Donc, il y a vraiment. Après, c'est un entretien avec un vampire aussi. Hein. Donc, après, il y a aussi peut-être. Là, je m'avance un peu, mais ça dépend peut-être un peu du public qui est visé aussi. Donc voilà. Un film d'action ou un film un peu plus bourrin, on va pas mettre des vampires qui sont bien élevés et qui font des courbettes dès qu'on leur parle pour leur tirer dessus derrière après. Quoi. Donc voilà, t'as aussi ce côté-là. Tout dépend. Quoi. T'as le Twilight, forcément, c'est la romance. C'est la romance mormone, certes, mais ça reste la romance. Donc vous n'allez pas mettre des vampires avec une langue comme ça qui va attaquer tout le monde et bouffer tout le monde. Sinon ça ferait deux pages. Quoi. Donc, si vous avez d'autres questions,
tu vas aborder aussi, en fait, au 19e, les premiers cas. Alors, je ne sais pas là, en fait, les deux premiers cas en Serbie, en fait, les cas d'Arnold de Paolé
Ouais.
Recensés par des scientifiques en fait, qui sont allés investiguer dans les villages en question, déterrer les morts,
ouais, pour voir.
L'état de conservation.
J'en avais parlé dans mon truc, je crois bien, dans mon mémoire, je crois. Mais j'en avais pas parlé, ouais, il y avait vraiment une enquête. Je sais plus trop ce qu'ils trouvaient, je t'avoue que je me suis pas remis dans cela, mais en tout cas, c'était le moment où ils se posaient quand même des questions sur la véracité de la figure. Et le fait que voilà, après, bon, c'est encore difficile à l'heure actuelle dans certains endroits. Hein. Comme je l'ai dit, en 2005, il y en a encore qui y croient. Donc, en Roumanie, majoritairement. Il y a aussi tout un tourisme. Hein, qu'il y a Dracula en Roumanie, on peut visiter un château qui n'était pas du tout le château de Vernon Valeur. Hein. C'est le château, mais c'est un château qui n'a rien à voir. Voilà, il y a encore tout ça. Mais oui, effectivement, c'est à ce moment-là, effectivement, il y a les premières enquêtes pour déconstruire un peu le mythe.
Oui, mandaté en plus par les nobles de l'époque, parce que je crois que justement,
enfin
annexé, ouais, relativement peu de temps avant, en fait, de manière justement à couper court à une hystérie locale.
Ouais, puis aussi il y avait quand même le pouvoir, enfin c'était aussi pour un souvenir un peu. Enfin globalement le christianisme était contre la présence dans les vampires, quoi. Je veux dire, donc, y a aussi tout ça qui disait que globalement ça pouvait pas trop coller. On a bien vu, le pape disait que les vampires n'existaient pas. Maintenant, enfin, les papes actuels demandent plus de spiritualité. À l'époque, c'était quand même très. Donc voilà, effectivement, ça joue aussi par rapport à ça, par rapport entre autres aussi aux croyances païennes. C'était plutôt toléré à cette époque. Hein. Voilà. Donc, il n'y avait plus d'autres questions. Non ?
Et du coup, bah, merci d'avoir
assisté. Bah, merci à vous, effectivement.
Merci à vous.